France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Comment la société pèse-t-elle sur les individus? C'est la série de cette semaine, elle va nous conduire vers plusieurs courants de la sociologie, discipline nourrie par beaucoup de philosophes de formation. Premier épisode, interaction et jeu social, de Simmel à Goffman. Nous jouons certains rôles sociaux tous les jours, les rôles exigés par nos métiers et aussi par nos vies personnelles, et en même temps ces rôles, nous les faisons aussi un peu dévier, nous les approprions à notre façon. Tout cela va être au cœur de ce premier épisode. Quels sont les sociologues ayant pensé les rites et les rôles sociaux, les interactions complexes induites, mais encore la marge de manœuvre de l'individu, sa faculté d'adaptation et même sa créativité. Nous allons évoquer l'école de sociologie de Chicago et notamment sa deuxième génération, celle d'Erwin Goffman. Sociologue lui-même très créatif, Goffman a analysé de près le travail de mise en scène dans notre vie quotidienne, l'ajustement inlassable des relations sociales, y compris quand il faut intégrer quelque chose de particulièrement difficile, un handicap par exemple. Mais nous allons aussi revenir à l'une des sources théoriques majeures de l'école de Chicago, le penseur allemand inclassable, philosophe atypique, qu'était Georg Simmel. Simmel enseignait à la charnière du 19e et du 20e siècle et il a marqué la sociologie américaine avant et plus que toutes les autres écoles sociologiques au monde. Bonjour Barbara Carnevali.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales rattachée au centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron. Vos travaux sont interdisciplinaires et riches comme ceux des amateurs de Georg Simmel. Vous avez tout à nous apprendre sur lui ce matin, tout en tout cas beaucoup, et sur l'importance de sa pensée. Et bonjour Nathalie Rigaud.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Namur en Belgique. Vous êtes une vraie Goffmanienne, excellente connaisseuse de la pensée sociologique d'Erwin Goffman, lancée à votre tour sur certains de ses terrains d'étude, comme celui de la maladie et du handicap.
Donc je me présente, je m'appelle Goffman, ça vous savez déjà. Mais ce que vous savez peut-être pas, messieurs dames, c'est que je suis né avec la maladie des ovaires, mais surtout que je suis né avec 27 fractures. Impressionnant, hein? Ce qui fait de moi, mesdames, messieurs, le champion national français de fracture post-natale. Je les ai niqués. Ça me fait rire, moi, tous ces gens qui me reconnaissent dans la rue, parce que maintenant, je suis un peu médiatisé aujourd'hui, qui me disent « Excusez-moi, est-ce que vous êtes Guillaume Batz ?» À votre avis, en même temps, la probabilité que vous croisiez mon sosie, elle est quand même assez mince, hein. Donc, soit je suis Guillaume Batz, soit j'ai emmené ma voiture à la caisse et j'ai oublié de sortir. Toi, je...
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre Guillaume Batz à Montreux en spectacle en 2019. Guillaume Batz est un humoriste français né en 1987. Il est mort il y a peu de temps, en juin 2023. Il était donc atteint, comme il le dit là, de la maladie des os de verre et il avait choisi l'autodérision pour parler du handicap. Rire de soi, faire rire les autres d'un handicap si énorme, si dur. C'est tellement interdit socialement que précisément le rire advient et est-il encore un peu gêné ou est-il libéré, ce rire, Nathalie Rigaud?
Oui, la question est complexe, effectivement, du statut du rire dans le contexte du handicap. Et puisque j'ai la casquette de la Goffmanienne ce matin.
Belle casquette, hein, vous conviendrez quand même.
J'en suis très honorée. Et donc, Goffman dirait que, me semble-t-il, que, évidemment, la personne que lui va qualifier de stigmatisée, donc il y a là une forme de discrédit qui est associée à certaines caractéristiques, ici, un handicap physique, va devoir être tenue de libérer ceux qu'il va appeler les normaux, ceux qui ne sont pas porteurs de stigmates, du poids, en fait, de les intégrer. Mmh. Donc, l'humour, c'est aussi l'extrême délicatesse, d'une certaine manière, ou le type de rôle qui peut être imposé aux personnes stigmatisées pour ne pas donner l'impression aux normaux qu'ils les intègrent, finalement, assez peu dans la société. Donc, voilà, le rire a ici un statut assez particulier.
Mmh. D'une certaine façon, il soulage les autres. C'est ce que vous venez de dire, et c'était un des enjeux de l'interaction sociale autour du handicap, disait Erving Goffman dans son livre de 1963, Les usages sociaux du handicap. Soulager les autres de leur propre malaise face à une personne handicapée.
Et c'est ça qui est évidemment un peu le comble, c'est que c'est la personne handicapée qui est stigmatisée par les normaux, et c'est à elle que revient la charge de les libérer de ce malaise.
Alors justement, la goffmanienne que vous êtes, est-elle surprise par ce propos de Guillaume Gatz, qui avait dit « J'ai choisi ce métier, donc du rire et du spectacle, presque par obligation, pour me sentir mieux et m'accepter ».
Oui, donc ça fait partie de tout l'effort, de toute la construction de l'identité très particulière qui va être celle des stigmatisés, et l'humour peut être une des pistes. D'autres vont faire des exploits absolument improbables au vu de leur handicap. Goffman cite par exemple les personnes malvoyantes qui deviennent championnes du ski, donc ils vont devoir faire des choses absolument extraordinaires qui sortent de l'ordinaire, justement, pour obtenir un minimum de reconnaissance qui leur est, dans la vie quotidienne, le plus souvent déniée.
Barbara Garnevalli, donc vous, c'est surtout de Georg Simmel que vous êtes la spécialiste. Nous expliquerons en détail comment la pensée, la philosophie de la société de Simmel a marqué l'école de Chicago, dont Goffman incarne à merveille la deuxième génération. Mais déjà, chez Simmel, un des enjeux fondamentaux est l'ajustement permanent que nous devons faire dans nos relations sociales pour éviter tout malaise.
Pour éviter les malaises et surtout pour jouer le jeu, d'une certaine manière, c'est-à-dire pour laisser la forme sociale régler les comportements individuels pour que l'individu entre dans la spécificité de la forme qu'il est en train de jouer. Je pense notamment à l'essai où Simmel réfléchit sur la forme de la sociabilité comme la forme pure de l'être ensemble, la Geselligkeit en allemand, et dans laquelle il décrit comment on passe dans une forme de socialisation dans laquelle on est entré peut-être par des raisons très différentes les uns des autres. On va en soirée parce qu'on a envie de rencontrer ou de séduire une certaine personne, ou parce qu'on a envie de parler d'affaires, de business avec un collègue, etc. Mais à un certain moment, si la soirée s'est passée bien, et si l'esprit de la sociabilité marche, le jeu social commence à agir sur les individus, à effacer les comportements individuels, par exemple le côté des narcissismes, l'envie de parler de soi, etc. Et d'imposer une forme qui, par exemple, qui s'exprime dans la conversation.
Vous voulez dire une forme convenue?
Oui, en fait, c'est une réflexion sur les formes de la bienséance et aussi de la conversation. C'est quelque chose de très familier à la culture française. On pourrait dire que Simmel formalise l'art de la conversation, l'art de la sociabilité.
Ce philosophe allemand a pensé beaucoup la sociabilité à partir des Français.
Pas forcément de français, mais il avait un salon, et en fait, et c'est une des raisons aussi de sa stigmatisation sociale comme philosophe, il était considéré un peu un mondain, un philosophe léger, impressionniste, qui justement réunissait ses élèves autour de la maison, autour des œuvres d'art pour les commenter, un snob. Mais en fait, sa vision effectivement de la Geselligkeit est une tentative de formaliser de manière scientifique des formes de sociabilité de l'ancien régime qui était propre de la culture aristocratique. C'est les morales que Jean Staroubensky appelait les morales substitutives, par exemple comme chez la Rochefoucauld ou chez la Pierre Nicole, oui. Quand ils réfléchissent justement sur ce qui arrive quand des individus poussés par l'amour propre se retrouvent ensemble, et ils arrivent à se détacher de cet amour propre pour être ensemble et jouer les plaisirs de l'être ensemble, de la conversation ou de la justement du jeu social.
Alors, Alors, Zimmel et Goffman n'appartiennent pas à la même génération. C'est fait exprès. Nous aimons bien, dans Avec Philosophie, confronter des penseurs qui, néanmoins, ont eu une influence l'un sur l'autre. Hein, Zimmel est né en 1858. Il est mort en 1918. Vous venez de le dire. Il faisait partie de cercles extrêmement lettrés. Alors, vous avez même dit mondain. La poésie de Stéphane George, par exemple, l'intéressait. Mais il avait étudié la philosophie. Kant, il a écrit sur Nietzsche aussi, sur Schopenhauer, et il a écrit, nous y reviendrons, beaucoup sur des formes sociales. C'était son concept qui n'était pas tellement travaillé à l'époque, c'est le moins qu'on puisse dire, la question de l'argent ou la question de la mode. Goffman, c'est tout à fait autre chose. Donc lui, il naît en 1922, il meurt en 1982. C'est un fils d'immigrants ukrainiens qui a fait de la linguistique. Il est donc aux États-Unis et il a très envie de faire ce qu'on appelle de l'observation participante dans la lignée d'un anthropologue qui s'appelle Bronislav Malinowski. Vous pouvez nous en dire un petit mot, Nathalie Rigaud, parce que je crois que par-delà Zimmel, qui a marqué tout le monde à Chicago, Malinowski, auteur des Argonautes du Pacifique occidental en 1922, est un anthropologue décisif pour comprendre la démarche de Goffman.
Certainement Malinowski et puis les anthropologues qui, au sein de l'Université de Chicago, où Goffman va arriver dans l'immédiate après-guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, vont être très marqués par ce qui, en tout cas au début des années 20, apparaît encore comme quelque chose de tout à fait incroyable, c'est de s'immerger dans des sociétés radicalement autres, c'est ce qu'a fait Malinowski, et que les sociologues américains vont transposer cette méthode de l'immersion ethnographique à la ville de Chicago. Et Goffman lui-même partira...
Comme si c'était une île étrangère, au fond, dont on peut saisir non pas vraiment la géographie, mais ce qu'ils appelaient l'écologie urbaine, les mécanismes d'appropriation du territoire, tout cela.
Voilà, ça va être pour l'école de Chicago, donc au sein de laquelle Goffman va être formé, mais qu'il va lui-même, en fait, réinventer d'une certaine façon. Il va être envoyé pour faire sa thèse dans les îles Shetland.
Alors ça, c'est passionnant, parce que donc Malinowski, il est allé, lui, dans les îles Tobriandes, de 1915 à 1918, 3 ans quand même dans ces îles Tobriandes. Et quant à Goffman, il va aller assez longtemps, vous allez peut-être me le préciser, dans les îles Shetland, au nord de l'Écosse, et ce sera sa thèse en 1953. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire dans les îles Shetland. Il y a surtout à observer. Et à observer quoi?
Alors, c'est ça qui est curieux, c'est qu'au lieu d'observer ce qu'aurait fait un ethnologue classique type Malinowski, la culture différente des autres, il va plutôt s'intéresser aux interactions tout à fait banales qui se déroulent à l'hôtel dans lequel de temps en temps il aide à faire la plonge, entre les amis qui se fait au sein de ces îles Shetland. Et donc il va d'une certaine manière prendre à contre-pied les attentes de ses mentors anthropologues, à la fois en s'étant immergé dans la culture, une culture apparemment, enfin qui pourrait sembler extrêmement différente, mais lui va essayer justement de montrer toute la forme d'universalité qu'il y a dans ces interactions ordinaires.
Où il s'agit de quoi? Une expression qui résume parfois la sociologie de Goffman. On croit être assez libre dans les interactions sociales, mais en fait, un des enjeux est de ne jamais perdre la face. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, perdre la face, donc, c'est en tout cas dans la première partie de l'œuvre de Goffman, ça va être un des grands enjeux ou paradoxalement contrainte de toute interaction, dit Goffman, c'est que nous ne devons à la fois pas perdre la face, c'est-à-dire la valeur sociale que les autres nous attribuent, mais bien entendu, en même temps, nous devons toujours préserver la face des autres. Donc, ce n'est pas uniquement centré sur la face d'un individu. Il y a toujours, évidemment, une obligation réciproque de respect de la face d'autrui.
Alors, il est vrai que Goffman est très célèbre pour son travail sur le handicap, Stigmate, en 1963. Je voudrais donc encore y revenir, et après nous parlerons des interactions sociales plus larges. Mais il a toujours apprécié aussi de réfléchir à des terrains difficiles. C'est ainsi qu'il a, peu avant, publié un livre sur l'hôpital psychiatrique également, ça s'appelle Asile. Mais là, parlons de Stigmate et lisons cet extrait qui est en fait un extrait cité par Goffman dans Stigmate de l'écrivain norvégien Finn Carling. Alors Finn Carling, c'était quelqu'un qui lui-même souffrait de paralysie paralysie cérébrale, si on traduit littéralement la pathologie dite en anglais, en français on parle plus volontiers d'infirmité motrice cérébrale, et qui a réfléchi à l'infirme, comme on disait parfois à cette époque-là. Écoutez.
J'ai appris aussi que l'infirme doit prendre garde à ne pas agir différemment de ce que les autres attendent. Et, par-dessus tout, ils attendent de lui qu'il soit infirme, invalide et impuissant, leur inférieur. Et s'il ne répond pas à leur attente, leur malaise les rend soupçonneux. C'est assez étrange à dire, mais l'infirme est obligé de jouer le rôle de l'infirme. De la même façon que beaucoup de femmes doivent se contenter d'être ce que les hommes veulent qu'elles soient, rien que des femmes. Et les Noirs ont souvent à jouer les clowns devant la race blanche supérieure, afin que la vue de son frère noir n'effraie pas l'homme blanc. J'ai connu une naine qui constituait un exemple réellement pathétique de cette réalité. Elle était très petite, environ 1m20, et d'une éducation raffinée. Malgré cela, devant les gens, elle prenait grand soin de n'être rien d'autre que la naine. Et elle jouait le rôle du bouffon avec ce rire moqueur et ces gestes vifs et comiques qui n'ont cessé d'être le propre de ses pareils depuis des cours du Moyen-Âge. Ce n'est que lorsqu'elle se trouvait avec des amis qu'elle osait enfin rejeter son capuchon et ses clochettes, et se montrer la femme qu'elle était en réalité. Intelligente, triste et très seule.
Texte de l'écrivain Finn Carling, lu par Riad Kera de notre équipe, et cité par Irving Goffman dans ce livre qui s'appelle « Les usages sociaux du handicap », c'est le sous-titre, le titre étant « Stigmate », livre de 1963. Au fond, j'ai envie de poser tout simplement cette question, Nathalie Rigaud. Qu'est-ce que c'est un stigmate ?
Donc le stigmate, c'est un attribut auquel est associé socialement une série de stéréotypes et qui ne va se révéler discriminant, si vous voulez, que dans certaines situations. Si je reprends les exemples de l'extrait qu'on vient de lire, être une femme ou être noire peut, dans certaines circonstances, faire de vous un individu comme un autre, mais dans d'autres, au vu d'un certain nombre de stéréotypes sociaux, va faire de vous quelqu'un qui, dit Goffman, ne va pas être reconnu comme un être humain à part entière, comme faisant pleinement partie de la communauté.
Mais il y a des communautés d'amis, il y a des communautés intimes où l'on peut être soi-même. Là, on parle de cette naine qui peut faire autre chose que jouer à la naine qui fait rigoler, comme tout à l'heure Guillaume Batz qui fait rire sur son handicap, qui est à peu près et malheureusement un jeu très quotidiennement joué, si j'ose dire. Il y a un moment où on peut arrêter, comme ce moment où, je ne sais pas, des gens qui n'ont pas de gens peuvent enlever leur prothèse tranquillement avec des amis, la déposer, et l'interaction ne s'en trouve pas affectée, il n'y a pas de couac.
Ses amis, disons que le cercle proche n'est malheureusement pas automatiquement bienveillant, ou plus exactement, n'est pas automatiquement convaincu que la personne stigmatisée, comme toutes les autres, est un humain à part entière. Mais effectivement, certains amis, comme ceux que cite Finn Carling dans son exemple, peuvent être ce que Goffman va appeler des alliés, c'est-à-dire des personnes qui ont compris que au-delà du stigmate, il y a en fait une personne comme les autres. Ça peut être le rôle des amis, mais ça peut être aussi une recherche de communauté où on se retrouve entre personnes affectées par le même stigmate. Ça peut être, par exemple, des groupes de personnes homosexuelles qui vont former, enfin, qui vont se retrouver entre elles, voire même pouvoir, à partir de là, militer pour tenter de renverser le stigmate.
Renverser le stigmate. Vous pouvez préciser, c'est souvent employé aujourd'hui dans plusieurs cercles militants, comme quoi, vraiment, Goffman a beaucoup d'héritiers. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire exactement, renverser le stigmate?
Mais c'est-à-dire que ça suppose justement le véritable renversement serait que la caractéristique dont il est question, par exemple être homosexuel ou noir ou femme, etc., ne serait à ce point admis dans la société qu'il n'y aurait plus aucune discrimination associée, ni plus aucune déshumanisation associée à cette caractéristique-là.
Est-ce que ça a à voir avec l'idée qu'on peut, sur ce stigmate, constituer une fierté militante, revendiquer quelque chose, voire précisément maîtriser le rire. Peut-être que déjà, ou maîtriser ce que ça peut produire sur les autres. Est-ce que ce n'est pas déjà le début, là, du renversement du stigmate?
Alors, toujours en suivant Goffman dans l'analyse qu'il propose de ses groupes militants dans Stigmate, il va être au fond assez pessimiste sur les possibilités de réel renversement du stigmate, parce que la communauté militante de stigmatiser, pour reprendre son terme, va toujours courir le risque que tout ce qu'elle va faire pour renverser le stigmate, pour afficher la fierté, hein, pensons à la marche des fiertés des gays, va pouvoir se retourner contre eux, et la force du stéréotype est tellement forte que tout ce qu'ils vont faire va finalement confirmer aux yeux des normaux qu'ils se sont bien des gens différents.
Ça, c'est ce que Goffman pensait. Oui. Comme une alerte, peut-être, à l'avance.
Tout à fait. Il attire notre attention sur les dangers que courent ces revendications militantes. Ça, c'est son côté relativement pessimiste, si vous voulez. Ça n'a absolument pas empêché pas mal de ces groupes militants, effectivement, de se réapproprier Goffman et de tenter de conjurer,
oui,
finalement.
Mais pas toujours très goffmanien, cette réappropriation. Aussi sombre, parce qu'il y a quelque chose d'assez tragique,
hein,
chez Goffman. On ne peut pas vraiment maîtriser l'interaction et jouer autant qu'on le voudrait avec son stigmate.
C'est ça, il est assez pessimiste de ce point de vue-là sur les possibilités de radicalement transformer la condition des stigmatisés.
Alors j'aimerais bien savoir si Zimmel, plus de 50 ans auparavant, en Allemagne, lui-même, dont il faut quand même préciser, alors dire qu'il a été stigmatisé dans l'université allemande serait peut-être excessif, il n'empêche que comme juif, il n'a pas vraiment pu obtenir un poste dans une grande ville d'Allemagne, comme il le souhaitait, un poste de professeur, il avait donc été nommé professeur à Strasbourg, ce qui à l'époque était quand même une façon de le mettre un peu à côté, même si Strasbourg était allemande. J'aimerais bien, Barbara Carnevali, que vous nous disiez si pour lui l'interaction, puisqu'il employait ce terme, entre les individus peut être un peu dirigée, maîtrisée par les individus, ou si fondamentalement, comme pour Goffman, 60 ans après, elle est subie, il y a du tragique, il y a de la domination, des choses qu'on ne peut pas changer, qu'on subit donc.
Je pense qu'un peu comme chez Goffman, son intérêt est vraiment sur la forme de la réciprocité. Donc ce n'est pas tant le point de vue de l'individu qui l'intéresse, même s'il a une réflexion quand il réfléchit sur l'individualisme qu'on produit de la société moderne et les formes que l'individualisme peut prendre dans la société moderne, l'individualisme de l'égalité, l'individualisme romantique de la singularité. Effectivement, il s'interroge sur la façon dont un individu moderne peut porter ses rôles et peut arriver à les maîtriser de manière libre, hein, de manière à ne pas se faire complètement écraser par les rôles. Mais son intérêt est vraiment sur les côtés de réciprocité. Et c'est là qu'il développe, c'est à propos de cette réciprocité qu'il développe ses instruments analytiques et sa théorie des formes sociales.
Alors parlons-en un peu pour voir précisément si les formes sociales que nous construisons, nous les individus, dans nos interactions, dans nos différences d'appréciation, dans nos valeurs, finalement nous construisons des formes sociales. Moi j'ai toujours l'impression que le plus pédagogique pour le comprendre, c'est le cas de l'argent. Nous avons chacun une évaluation, un sentiment de la valeur d'une chose, à un moment donné, la rencontre de tous ces sentiments de valeur produit un prix. L'argent sert à objectiver, à formaliser la valeur d'une chose. Ma question est alors de savoir, outre comment ça marche, vous allez nous le préciser, est-ce que cette forme, au bout d'un moment, ne finit pas par oppresser les individus? Justement, ils l'ont objectivée, mais ils finissent par la subir. Ils ne peuvent plus jouer autant qu'ils voulaient avant. Le prix, c'est le prix. Ils peuvent un peu le changer à la marge, mais il y a quelque chose d'opprimant dans la forme sociale chez Zimmel, non?
Alors, d'abord, la... La question de l'argent est une réflexion sur comment la valeur s'est créée, n'est pas attachée à la matérialité des choses, mais plutôt le produit d'un jeu social, oui. Et donc d'un échange, d'un rapport d'échange. Et sa philosophie de l'argent est donc une réflexion sur la formation de plus en plus abstraite des mécanismes du capitalisme à partir de l'échange primaire. C'est-à-dire, j'ai envie de quelque chose que tu possèdes, on l'échange, et donc on crée une valeur commune qui devient... Et je dirais pas que la forme argent que l'argent est une forme sociale, sauf si on parle, oui, des échanges monétaires, des échanges commerciaux dans la société capitaliste développée. Pour donner un exemple de forme sociale, je parlerai plutôt de quelque chose
oui,
qui est...
Oui, autre chose, allez-y, un autre exemple.
Pour faire un exemple beaucoup plus concret aujourd'hui, je pense que Zimmel adorerait, s'il était invité à cette émission, il ferait la philosophie ou la sociologie ou la psychologie, parce que parfois il change les titres, il les considère équivalents, de l'émission radio.
Et donc?
Donc, voilà. Alors, tandis qu'un sociologue avec un autre orientement, par exemple, il va s'interroger sur la question des médias, donc faire une sociologie des médias, donc au niveau macroscopique. Oui. Ou peut-être un sociologue proche de l'école de Francfort, il s'interrogerait sur l'industrie culturelle. Voilà. Zim, qu'est-ce qu'il ferait? Par contre, il s'interrogerait sur ce qui se passe entre nous.
Entre
toi.
Nous, ici, là.
Et donc, il commencerait...
Comment je vous ai orienté vers l'argent et vous m'orientez vers la radio,
vers la radio.
Par exemple.
Non,
oui.
Alors, qu'est-ce qu'il ferait? Oui. D'abord, il insisterait sur la forme spécifique de notre échange sensible qui est la voix et l'écoute. Mm-hmm. Donc, c'est une forme sociale qui se fonde sur la réciprocité qui passe par la priorité de la voix et de l'écoute.
Et du regard, quand même, c'est un enjeu très important pour lui et en radio
aussi.
Et avec
le public.
Ah,
c'est
oui,
intéressant.
C'est
donc, il ferait déjà la différence entre le fait que notre interaction se joue, c'est dans la parole, on échange des regards, mais le public n'a pas cette possibilité. Il peut interagir peut-être avec des commentaires sur oui. l'émission a posteriori. Après, il s'interrogerait sur la question du nombre. C'est que Zimmel appelle dans sa sociologie la détermination quantitative du nombre dans les formes sociales. C'est simple, hein, mais
et
c'est
le
une idée géniale.
C'est-à-dire
que ça change beaucoup d'être à 3 ou d'être à 2 ou d'être à 4. Et peut-être vous le savez dans cette émission, c'est-à-dire s'il y a 4 invités, évidemment la forme sociale changera.
Et
s'il y en a 2 ou s'il y a un seul invité, l'émission aura une autre forme.
Absolument.
Voilà donc comment les transcendantales, c'est une idée kantienne, interviennent dans la détermination de cela. Et après, probablement, il s'interrogerait aussi sur le microphone comme l'objet qui rend possible cette forme sociale.
Et qui est par exemple.
C'est un peu comme les cadres.
Qui m'est plus coutumier, alors que pour vous, c'est là le micro devant vous, c'est presque. Ça gêne un peu l'interaction pour vous, alors que moi j'y suis habituée par exemple.
Par exemple, exactement. Et donc, la forme sociale de l'émission radio est formelle parce qu'elle s'interroge non pas sur mon identité personnelle de Barbara ou sur la vôtre, mais plutôt sur les jeux de rôle qu'on est en train de jouer en ce moment-là et qui est spécifique à la forme émission radio.
Bon, moi j'ai l'impression que Irving Goffman, 50 ou 60 ans plus tard, ferait exactement le même genre d'analyse microsociologique. C'est pas pour rien qu'on les a mis ensemble dans cette émission.
Tout à fait.
Nathalie Rigaud.
Tout à fait. C'est évident que toute interaction, en ce compris l'émission de radio, mérite cette analyse microsociologique qui aurait pour continuer dans le jeu que nous a proposé Barbara, qui a pour enjeu à la fois nos faces individuelles. Chacune d'entre nous tente évidemment de faire bonne figure, d'être reconnue comme une interlocutrice valable. Et en même temps, évidemment, l'enjeu, c'est aussi de sauver la situation, l'émission de radio elle-même, mais derrière elle, la valeur reconnue au service public ou pas. Et ça, c'est le propre de toute interaction, si vous voulez, d'avoir aussi comme enjeu, et pour Goffman, vous l'évoquiez tout à l'heure pour Zimmel, au-delà de nos faces, c'est essentiellement en fait le monde social, l'ordre de l'interaction, dit Goffman, qui doit être sauvé et auquel chacune d'entre nous veille jalousement.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous nous demandons cette semaine comment la société pèse sur les individus. C'est vraiment le comment qui nous perturbe, qui nous tourmente. Peut-être certains de nos invités diront que en réalité elle pèse peu, mais c'est pas seulement le quantitatif, c'est le qualitatif qui nous intéresse. Et aujourd'hui nous parlons beaucoup de Georg Simmel et d'Irving Goffman, qui ont écrit à 60 ans d'écart. L'un était à la fin du 19e siècle un penseur allemand, l'autre un sociologue américain écrit beaucoup dans les années 1960. Jeu social et interaction, tel est le thème de ce matin en compagnie de Nathalie Rigaud et de Barbara Carnevali. Je vous propose d'écouter une scène de film. Il s'agit du film Sans filtre, où vous allez voir comment arrive parfois un couac social, et la question du malaise qui s'installe et du couac est un vrai sujet aussi bien pour Simmel que pour Goffman. Écoutez.
Merci chérie. C'est adorable de ta part. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe.
Non, c'est que... Je sais pas, quand tu dis... Quand tu dis merci, chérie, l'air de rien, en fait, je me sens un petit peu obligé de payer. Je dis ça comme ça, hein. C'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est tout.
Si tu veux, on peut partager la note.
Je peux prendre
la calculette et compter.
Mais non, ça va, c'est pas la peine, arrête.
Combien de verres de vin t'as bu ce soir?
Oui, bien sûr,
bien
sûr.
T'en as bu trois plus que moi. Ça.
C'est pas ce que je voulais dire,
Ouais, ça doit revenir au même, l'un dans l'autre.
Tu te souviens pas, hier soir, t'as dit que c'était toi qui paierais le resto, aujourd'hui. À la fin du repas, t'as dit merci. Demain, ce sera pour moi.
Oui, bien sûr, mais ensuite tu as pris la note et j'ai cru que tu voulais payer, donc j'ai dit merci chérie.
D'accord, mais l'addition est restée tellement longtemps sur la table que...
Mais je l'ai pas vu.
Tu rigoles?
Non, je l'ai pas vu. Plutôt je l'ai pas remarqué. Le dîner était tellement agréable.
T'as pas vu la note quand le serveur l'a posée sur la table?
Non, j'ai rien vu, Karl. Waouh.
Quoi, waouh? Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu peux t'asseoir.
J'essaie de comprendre ce que j'ai fait de mal. Chut. Exactement.
T'es sérieux, là?
Calme-toi. Mais non, c'est pas ça du tout.
Ah ouais, moi je crois que c'est exactement ce qui se passe.
Je t'avais remarqué que le fait qu'hier soir t'avais dit que...
Pourquoi t'es trop obsédé par le fric?
Je suis pas obsédé par le fric, s'il te plaît. C'était une simple remarque par rapport à hier soir, tu veux bien te rasseoir?
Dans ce film, Sans filtre, réalisé par Ruben Östlund en 2022, qui a obtenu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 2022, Karl et Yaya constituent un couple de mannequins et influenceurs. Il faut savoir que elle gagne encore plus d'argent que lui. Il faut avoir ça en tête dans cette affaire, si j'ose dire. Et on voit bien là la confrontation de tous les rôles et les couacs, c'est-à-dire le rôle homme-femme dans la relation de couple, les rôles homme-femme en public, parce qu'ils sont quand même dans un restaurant. La question de qui gagne plus et gagne moins. Mais encore, au fond, ce rapport à l'argent et disons au pouvoir de payer. Alors je ne sais pas si c'est la Zimmelienne spécialiste de Simmel qui avait écrit sur l'argent qui va répondre en premier, ou Nathalie Rigaud, la spécialiste de Goffman, mais je suis convaincue que les deux auteurs ont des choses à dire là-dessus. Bon allez, je laisse la Zimmelienne en premier.
Dans cette scène que j'avais beaucoup aimée au cinéma, effectivement, là, on voit que Yaya est une bonne joueuse parce qu'elle, stratégiquement, c'est elle qui s'empare de l'ancien jeu de rôle de la société patriarcale pour ne pas payer, finalement, ouais, pour l'emporter sur son boyfriend.
Qu'est-ce que vous pensez du « je ne l'ai pas vu la note » Parce qu'en même temps, c'est possible qu'elle soit sincère, d'autant plus qu'elle a de l'argent. Au fond, la question de la note ne la préoccupe pas autant que lui. Et peut-être que c'est vrai qu'elle ne l'a pas vue, la note, mais peut-être que c'est faux.
Ou peut-être elle avait joué le jeu de la galanterie. Donc il y a une intersection entre plusieurs interprétations possibles. La stratégie de l'intérêt économique ou la stratégie, par exemple, du plaisir d'être dans un jeu galant dans lequel c'est l'homme qui paye pour une femme au restaurant et ça, c'est une forme de reconnaissance pour un certain type de femme.
Et elle le met à l'épreuve, peut-être elle le teste lui aussi, Nathalie Rigaud.
Oui, quand vous disiez peut-être est-elle sincère, d'un point de vue goffmanien, en fait, peu importe, ce qui compte, ouais, c'est l'apparence. Est-ce que si pour son boyfriend, elle a effectivement, elle l'a sciemment ignoré, cette note, quand bien même ce n'était absolument pas son intention, c'est ça qui compte. C'est l'interprétation que les autres vont faire de notre conduite qui va
C'est ça qui est un peu tragique chez Goffman aussi, parce que peut-être qu'on ne peut pas se comprendre dans certaines situations sociales.
En tout cas, il faut toujours se soucier de la compréhension de l'autre. Et donc, il faut être un interactant extrêmement stratège. C'est la vision qu'en offre parfois Goffman. C'est que nous devons contrôler les impressions que nous donnons aux autres. Et il se peut que ce que nous allons manifester dans l'interaction ne soit pas compréhensible, ce qui va être un problème. C'est peut-être le problème ici.
Alors, on va parler de Zimmel en détail, puisque je vous propose d'écouter un extrait de sa sociologie de la sociabilité, qui est un texte de 1910, où précisément, à l'horizon de son intérêt pour le tact, il y a la peur du quoi, qu'il ne faut pas que le malaise social s'installe. Écoutons.
Les qualités personnelles d'amabilité, d'éducation, de cordialité, les charmes de toutes sortes, décident du caractère de la rencontre purement sociable. Mais justement parce que tout converge vers les personnalités, celles-ci ne doivent pas s'affirmer de manière trop individuelle. Là où des intérêts réels, de coopération ou d'opposition, déterminent la forme sociale, ils veillent déjà à ce que l'individu n'impose pas de façon trop absolue et impérative ses particularités et ses originalités. Mais là où cette détermination disparaît, il faut trouver une autre manière, provenant uniquement de la forme de la rencontre, pour diminuer le mordant et la vanité personnelle. Sinon, une telle rencontre ne serait pas possible. C'est pourquoi le sens du tact est tellement important dans la société, parce qu'il assure l'autorégulation de l'individu dans ses rapports personnels avec les autres, là où aucun intérêt extérieur ou immédiatement égoïste ne se charge de cette tâche.
C'est Carla Michel de l'équipe d'Avec Philosophie qui lisait cet extrait de Georg Simmel de 1910. Barbara Carnevali, ce qui est intéressant dans cette histoire de sens du tact soulignée par Simmel, me semble-t-il, c'est que qu'on soit dans l'endossement conventionnel d'un rôle ou qu'on soit dans une relative rébellion par rapport à lui, il ne faut pas que ce soit trop rude. Il faut, par rapport aux autres, faire ça correctement, avec tact, pour que ça passe.
Oui, mais je pense que peut-être on a trop insisté jusqu'à maintenant sur les côtés tragiques et négatifs de cette idée des jeux sociaux, parce que ici on voit qu'il y a une préoccupation morale, je dirais sincère, de la part de Simmel, c'est-à-dire il croit que la société, d'une certaine manière, éduque les individus à ne pas blesser les autres et
à coopérer, dirais, comme
à coopérer, et aussi je dirais qu'il y a déjà les noyaux de ce qui deviendra la pensée de la dignité de Goffman dans les rites de l'interaction et aussi de Luhmann, c'est-à-dire l'idée que c'est important de ne pas blesser l'auto-représentation des autres, que la dignité n'est pas une question substantielle, c'est quelque chose qu'on a chez nous, mais qu'on construit dans les jeux de rôle, et que donc il faut avoir ce sens, cette sensibilité, cette discrétion d'essayer de ne pas blesser les autres sur
Et on apprend ça. Ça marche. Est-ce que ça marche plutôt que ça dysfonctionne pour Simmel?
C'est une question de sagesse sociale qu'on apprend comme l'essence d'un jeu. On apprend à jouer, et donc il faut de l'expérience, il faut de l'herméneutique, effectivement, apprendre à comprendre les signes, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que l'autre personne considère important dans son autoréprésentation. Et donc, ça demande une familiarité avec les jeux sociaux lui-même.
Alors, nous allons voir ce que ça va devenir, parce que ce sont des thèmes communs à ces deux penseurs, ce que ça va devenir chez Goffman, où en effet, mais peut-être que j'exagère un peu, mais il y a un vocabulaire de « on est un peu enfermé, on est son propre geôlier ». Voilà la façon dont parfois parle Goffman, en particulier dans ce texte qui me semble faire un écho direct à la question du tact chez Simmel, ce texte sur « perdre la face » ou « faire bonne figure », qui est un extrait des « Rites d'interaction », livre d'Erving Goffman de 1967.
Dès lors que quelqu'un assume une image de soi qui s'exprime à travers la face qu'il présente, il est censé s'y conformer. De différentes façons, dans différentes sociétés, il doit faire preuve d'amour-propre. Répudier certaines actions parce qu'elles sont au-dessus ou en dessous de sa condition. Et se forcer à en accomplir d'autres, même si elles lui coûtent beaucoup. Dès qu'elle pénètre dans une situation où elle reçoit une certaine face à garder, une personne prend la responsabilité de surveiller le flux des événements qu'elle croise. Elle doit s'assurer du maintien d'un certain ordre expressif, ordre qui régule le flux des événements, importants ou mineurs, de telle sorte que tout ce qu'ils paraissent exprimer soit compatible avec la face qu'elle présente. Alors même que la face sociale d'une personne est souvent son bien le plus précieux et son refuge le plus plaisant, ce n'est qu'un prêt que lui consent la société. Si elle ne s'en montre pas digne, elle lui sera retirée. Par les attributs qui lui sont accordés et la face qu'ils lui font porter, tout homme devient son propre geôlier. C'est là une contrainte sociale fondamentale, même s'il est vrai que chacun peut aimer sa cellule.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Quel vocabulaire quand même, Nathalie Rigaud, chez Goffman, la face sociale que nous devons sans arrêt sauver. Il en parle comme s'il fallait, comme si on jouait chaque fois, sinon sa peau, du moins sa petite marge de liberté, puisqu'en réalité, dit-il, cette face sociale, ce n'est qu'un prêt consenti par la société. Il nous faut sans arrêt nous en montrer dignes. Nous sommes un peu chacun notre geôlier, et tout au plus pouvons-nous aimer un peu notre cellule. C'est quand même terrible, hein.
Dans ce texte-là, il faut dire que l'œuvre de Goffman est évidemment, enfin comme toutes les grandes œuvres, je dirais, mais en particulier chez Goffman, on trouve des éclairages très différents selon les passages de l'œuvre. Alors ce passage-ci, effectivement, peut sembler extrêmement pessimiste ou dramatique, mais je trouve que d'une part, il faut le situer, et ce qui fait son intérêt, c'est de le situer justement dans la perspective de société individualiste, où au sens courant du terme, il y aurait là une forme de narcissisme ou d'égoïsme des individus. Goffman montre bien qu'en fait, se préoccuper de sa propre soif, et là, il renverse évidemment l'opinion commune sur ce qu'est une société individualiste, suppose en fait un extrême contrôle des impressions.
Oui. Hein, c'est un jeu de miroir dans lequel on est appris à déambuler.
Oui, alors en même temps, il faut, enfin, pour l'articuler au texte précédent de Simmel, il y a bien sûr, je voudrais le répéter, c'est bien sûr notre propre face qui est en jeu, mais aussi celle d'autrui. Et donc notre face va être, par exemple, votre face en train d'animer l'émission de radio et de la conduire, elle sera affectée si vous jetez le discrédit sur une de vos
sur
deux.
Vous.
Sur nous, bien entendu. J'assure mes arrières. Voyez-vous.
Et vous avez parfaitement
donc,
raison.
Bien entendu, c'est le double. C'est vraiment la face est vraiment à double face.
Je dois sauver la vôtre pour sauver la mienne.
Absolument.
Les aspects, disons, un peu tragiques, ne serait-ce que dans le vocabulaire, on les retrouve quand même dans Asile, ce livre, je crois, du début des années 1960 de Goffman, au sens où il est un des tout, enfin, je crois, peut-être je me trompe, un des tout premiers à avoir à ce point étudié l'institution psychiatrique et les interactions entre les soignants et les patients. Et il y a notamment un passage troublant où il dit que c'est, à quel point c'est une cellule quand même. C'est difficile d'avoir du jeu, J-E-U, de la marge de manœuvre, à tel point que chacun respire quand il trouve dans l'institution un endroit où il n'est pas soumis au regard de l'autre.
Alors, Asile est évidemment une œuvre très particulière dans toute la création scientifique de Goffman, parce que c'est d'une part, c'est très particulier parce que c'est le seul livre qu'il va consacrer à l'analyse qu'on pourrait dire, on dirait aujourd'hui, une sociologie des organisations, et il va nous proposer de l'asile, une vision effectivement, enfin, mais paradigmatique de ce que serait qu'une institution totale. Donc c'est le concept qu'il va forger, institution totale. Au départ en français, et ça dit bien ça reflète bien évidemment certains accents de cette œuvre. On a même traduit institution totale par institution totalitaire. Mmh. Donc c'est aussi évidemment dans cette œuvre-là, effectivement, il y a vraiment face aux malades mentaux qui n'ont pas respecté les règles de l'interaction, eh bien la société va se retourner contre eux, les mettre à l'écart. C'est un des grands principes de l'institution totale, c'est de mettre à l'écart les individus et par une série de procédés, les mortifier, les discriminer. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, effectivement, l'individu va chercher, mais avec très peu de moyens, parce qu'il est enfermé précisément dans l'institution totale, à sauver quelque chose de lui-même qui échapperait au regard de l'institution. Mais donc, c'est un livre très particulier de ce
donc,
point de
vue. Donc, il est difficile de dire si ça pèse beaucoup, si ça pèse peu. Ça pèse beaucoup dans les textes que nous venons de voir pour Goffman. Les interactions sont terriblement codées. Mais vous diriez qu'il y a d'autres textes où la marge individuelle de jeu est très grande et peut même changer les codes?
Pas changer les codes, mais on peut jouer avec les règles. On peut feinter. On peut faire celui ou celle qui respecte les règles en gardant par-devers soi une opinion tout à fait différente. Je peux, pendant cette émission, faire celle qui trouve que vous êtes extraordinaire, mais en même temps, moi-même, continuer à me dire, mais dans quoi je suis tombée, etc. Donc ça, c'est, il y a toujours une liberté de conscience. Je continue sur l'analyse de l'émission de radio. En espérant ne pas me faire jeter entre-temps. Mais non, il y a toujours...
Si vous voulez laisser un peu d'ironie et montrer que vous avez beaucoup de recul, justement, voire d'esprit critique, vous allez y arriver. L'auditeur va vous entendre. Même si c'est doucement
Oui, donc, mais donc ça, c'est la... Il y a toujours chez Goffman, qui est un sociologue très ironique, qui joue beaucoup de l'ironie. Et donc, évidemment, à travers cette ironie de Goffman, mais aussi celle qu'il repère chez les interactants, il y a là une marge de manœuvre. Mais pas pour changer les codes. Tout le monde joue avec des règles.
Pour les vivre moins mal.
Pour en rire, pour les déplacer, c'est pour ça qu'il y a aussi une forme de légèreté, et là on rejoint ce que vous disiez de la légèreté de Zimmel, il y a aussi une forme de légèreté qu'il ne faut pas, c'est par exemple, Goffman s'est beaucoup intéressé aux joueurs de casino, même s'il n'a finalement pas publié, il n'a pas eu le temps de publier un livre là-dessus, mais donc il y a ce jeu de feinte qui est possible, et dont l'individu stratège peut tirer à certains moments un certain avantage. Donc il ne faut pas avoir une vision trop exclusivement noire de la situation.
Et donc peut-être que là, ça justifie notre comment dans la question de série, comment la société pèse sur les individus. Elle pèse, il y a des codes, aussi bien pour Zimmel que pour Goffman, aujourd'hui dans ce premier épisode, mais il y a de la ruse possible. Alors il y a une ruse chez Zimmel qui m'a toujours passionnée, ce sont ces analyses du conflit. Les analyses ordinaires des conflits suggère volontiers que ça va rompre les interactions. C'est pas bien d'avoir trop de conflits dans un couple, dans une entreprise, etc., parce que ça va rompre les interactions. Et Zimmel dit le contraire. Il dit c'est très bien, parce que ça va donner à chacun l'impression qu'il peut exprimer sa voix singulière, etc. Et en fait, ça va créer des liens d'association. Un bon mariage est un mariage où on s'engueule, de même qu'une entreprise qui fonctionne est une entreprise qui autorise des moments de revendication, de colère et de conflit.
Vous l'avez déjà dit. C'est comme ça, oui.
Mais est-ce qu'il a raison? C'est ça le sujet.
Ah oui, il a raison et c'est quelque chose qu'on voit dans la vie démocratique tous les jours. Il y a une réglementation des conflits qui permet effectivement à la démocratie de s'enrichir et de, par exemple, les jeux des élections, par exemple, ou les débats publics, lorsqu'on commence à discuter, etc. Ce sont des formes de conflits qui effectivement ont aussi un effet de socialisation. Ils tiennent ensemble la société même dans la négativité. Et je voudrais aussi ajouter une autre chose à propos de la question de la légèreté, le tragique, etc. Je dirais que Zimmel, je ne sais pas si Goffman pourrait rentrer dans cette définition, chez Zimmel, la question des formes est plutôt toujours jugée selon l'ambivalence. C'est-à-dire, vous avez fait l'exemple de l'argent avant.
Oui.
C'est vrai qu'il y a une critique de l'argent qui, par exemple, anticipe la critique de l'école de Francfort, Lukács, le capitalisme, etc. Mais Zimmel, par exemple, dans la philosophie de l'argent, il dit très clairement que c'est grâce à l'argent que les individus se sont émancipés au Moyen-Âge, des rapports
de troc.
Exactement, ouais. C'est-à-dire ils étaient liés à la terre, ils devaient payer avec la, disons, en substance matérielle leur dette, tandis que maintenant ils peuvent, par exemple, circuler, ils sont beaucoup plus libres. Et la même chose est valable, par exemple, par la forme de la vie urbaine, hein, la métropole, qui a des effets aliénants. On est seul, l'individu est isolé, il est choqué par l'environnement, de la nervosité de la ville, et en même temps, les femmes se libèrent, et les individus qui viennent du village, parce qu'ils peuvent finalement vivre seuls sans avoir le contrôle social.
Ouais. Alors justement, j'ai l'impression que vous avez prononcé ce mot, je voulais qu'on finisse là-dessus, l'émancipation. C'est un mot zimmélien, moins goffmanien, me semble-t-il. Vous êtes d'accord, hein? Je vérifiais quand même chez la goffmanienne. Et c'est vrai que ça, c'est très particulier chez Zimmel. Prenons un dernier exemple, s'il vous plaît. Nous sommes un peu contraints par la mode. En même temps, nous pouvons jouer avec elle. Magnifique jeu de ça pèse et puis on peut ruser. Mais mine de rien, nous devons faire attention à ne pas être habillés complètement n'importe comment, quoi. Celle qui, par exemple, dit-il, est la moins soumise à la mode et la moins fashion victime de toutes les femmes, c'est la femme qui a un métier, des responsabilités d'homme, une forme d'émancipation. Alors, dit-il, on est moins flippé, je dirais, sur comment on est habillé.
Je pense que Zimmel personne ne peut se soustraire au jeu de la mode. Donc sa pensée, par exemple, est que même la distinction, même les gens qui affichent un désintérêt total pour la mode, en fait, ils sont dans le jeu parce qu'ils ont besoin de remarquer l'absence d'intérêt pour les vêtements et donc de se singulariser par distinction, par négativité. Et je dirais qu'il Zimmel probablement aujourd'hui il écrirait quelque chose sur le phénomène selon lequel les personnalités créatrices, y compris les femmes, mais je pense aux stylistes, aux grands industriels, etc., au Steve Jobs, qui s'habille toujours de la même manière, avec la même combinaison de vêtements. Et là, c'est une forme de libération à travers... Ils font une sorte de mode personnel, c'est-à-dire qu'ils se construisent un style qu'ils peuvent tous les jours choisir en respectant l'image qu'ils veulent donner de leur personnalité. Et en même temps, en fait, ils suivent la mode parce qu'ils ont créé un style
personnel. C'est toujours aussi compliqué, et donc c'est quand même, ça exige des analyses goffmaniennes. Juste pour finir, on a bien fait alors de mettre Zimmel, qui a plutôt influencé la première école de Chicago, avec, de le marier ici avec Goffman, qui est la deuxième école. Vous êtes d'accord? Vous confirmez cette influence, Nathalie Rigaud?
Oui, tout à fait, en sachant qu'il y en a évidemment bien d'autres, et vous allez parler, je pense, demain de Durkheim. C'est aussi une des grandes influences de Goffman. Donc, les influences sont multiples, mais Zimmel certainement en fait partie.
Là, Our Lips Are Sealed, une chanson de The Go-Go's dans l'album Beauty and the Beat de 1981. Can you hear them? They talk about us. Ils parlent de nous. Does it matter what they say? In the jealous games people play. Finalement, ils jouent un jeu, mais c'est pas grave. On est plus fort que ça. Man. Merci beaucoup Barbara Carnevali et Nathalie Rigaud de nous avoir parlé ce matin de Georg Simmel et d'Erwin Goffman, deux penseurs du jeu social JEU et des interactions. Les références de vos travaux figurent sur le site d'Avec Philosophie. Nous retrouvons à présent Frédéric Worm. Cette semaine, il nous parle de l'abstrait et du concret. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi oppose-t-on l'abstrait et le concret ? Lorsque l'on voit, par exemple, un mathématicien perdu dans ses nombres, dans ses idées abstraites, on est pris d'une sorte de sentiment d'ambivalence. D'un côté, on se dit « mais il a oublié le concret, il vit uniquement dans un monde mathématique », un peu comme aussi, on peut le dire, d'un théoricien de la politique qui vit, par exemple, dans les grands principes, dans liberté, égalité, fraternité. Il vit dans l'abstraction. Et donc là, on est pris d'un désir de le ramener devant le concret. Oui, ce géomètre qui tombe dans le puits et dont se moque la servante dans un célèbre dialogue de Platon, le Théétète. Oui, ce théoricien des grands principes qui ne voit pas la violence concrète du monde, la réalité opaque de l'histoire. Oui, il faut les ramener sur terre, il faut les ramener au concret. Mais d'un autre côté, il semble y avoir une grandeur à accéder à ces abstractions, à vivre dans ces principes. Il semble y avoir une nécessité aussi de l'abstraction, une nécessité de développer des principes qui certes ne sont pas immédiatement la chose même, mais qui n'en sont peut-être pas tout à fait séparés et sans lesquels même peut-être ce qu'on appelle le concret ne peut pas véritablement se penser. En réalité, la différence entre l'abstrait et le concret n'est elle-même pas du tout une différence abstraite. C'est un geste très concret qui a des enjeux très fondamentaux dans la vie humaine, puisqu'on voit bien que d'un côté il y a les mathématiques mais aussi le réel, qui d'ailleurs répond en partie aux mathématiques, et d'un autre côté par exemple des grands principes de justice qui ne sont peut-être pas non plus simplement abstraits et sans effectivité concrète. Qu'est-ce donc exactement que la différence entre l'abstrait et le concret et pourquoi les deux nous sont-ils nécessaires ? En réalité, l'abstraction, c'est le fait de prendre une dimension d'un phénomène empirique, d'un phénomène concret, et de la considérer pour elle-même, parfois effectivement de manière excessive, en la coupant du reste des choses, et peut-être aussi en allant trop loin dans une sorte de fiction qui ne vient plus chercher sa marque dans le réel, mais aussi parfois au contraire, en montrant que cette dimension n'est pas une fiction, mais est présente dans une expérience empirique qui n'est pas simple, mais complexe, car le concret, c'est aussi le complexe, c'est l'intégralité de toutes les dimensions que l'esprit humain doit reconnaître dans une chose. Par exemple, voici des pommes. Eh bien, ces pommes, elles ont un aspect particulier qui est leur nombre. Il faut les compter. Ça peut être utile aussi parce que de toute façon, elles sont là, elles sont distinctes. Il y a 2, 3, 12, 25 pommes. Il y a des êtres qui se distinguent dans l'espace et que l'on peut caractériser par le nombre. Alors, les mathématiciens vont peut-être développer cette abstraction, cette dimension pour elles-mêmes, mais aussi revenir vers le réel pour comprendre concrètement les mathématiques. Et voici aussi des êtres humains qui s'affrontent. Est-ce que dans leur affrontement, on n'a pas raison de considérer qu'ils sont aussi des êtres libres qui doivent se respecter absolument les uns les autres. Le concret ne doit-il pas aussi comprendre cette dimension de la liberté, aussi cette dimension de la pensée elle-même ? L'homme, l'être humain complet, l'être humain concret ne doit-il pas comprendre aussi au sens d'inclure cette dimension que l'abstraction vient nous révéler, que la capacité d'abstraire vient nous révéler même dans l'esprit humain cette capacité d'accéder au principe qui est certes une capacité à l'abstraction qu'il faut ensuite remettre dans le concret, vivre concrètement, concrétiser, car le concret ce n'est pas l'opposé de l'abstrait même s'il y a ce risque, c'est ce qui nous permet de ne rien manquer du réel.
Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'appli Radio France ou sur le site de Radio France dans les programmes de France Culture. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Élise Leu. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Marine Boudalier, Chaïma Gibois, Anna Felpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.